Oui, c'est super. C'est excellent. Excellent. Voilà. Je ne sais pas si le micro est assez fort. Si, c'est bon? C'est bon? Voilà. Alléluia. Merci Seigneur, merci David. Merci les bussières. Merci à vous tous pour votre accueil. Voilà, super. C'est bien. Donc je m'excuse, c'est pas très saillant, mais vous avez compris pourquoi je mets ça. Hein. J'ai juste acheté ça juste avant de prendre l'autoroute dans une pharmacie. C'est pour soutenir les vertèbres. Vous avez compris qu'hier, en fait, j'ai voulu mettre mes roues d'hiver moi-même. Et puis, juste en faisant rouler une roue par terre, comme ça, tout d'un coup, ça a claqué en bas du dos. Comme ça. Ouh là là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, bon, ben, forcément, après, j'arrivais plus. J'étais un peu paralysé, quoi. Et puis, comme l'a très bien résumé Luc, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas, mais j'ai dit, il faut quand même aimer, c'est bien en mots, mais c'est mieux de le montrer, je trouve. Toujours mieux de le prouver. Et je voulais vous donner en tout cas cette preuve en venant aussi. Et je suis convaincu effectivement que, en m'écoutant pas trop, en tout cas, c'est une manière aussi d'écouter la foi et puis d'avancer par la foi et puis d'être là. C'est quand même mieux que Skype parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, Skype. On n'est pas toujours sûr de la qualité de la communication. Voilà, je lance la première diapo. Est-ce qu'elle apparaît? Alors, cette diapo, en plus, elle me parle. Vous savez que ça, c'est un beau. Pour moi, c'est un bon signe de bienvenue de la part du Seigneur. Parce que je ne suis jamais allé à cet endroit-là. Mais pour moi, si la maison du Père devait ressembler à quelque chose, elle ressemblerait à cette maison-là. Donc ça, c'est la maison du Père telle que je me la représente, vous voyez. Donc j'étais sidéré en arrivant ici de voir cette photo qui m'attendait, qui m'accueillait. Voilà, il va faire beau demain. Il y a un dicton alsacien qui dit quand Vito monte à l'escabeau, il fera beau. Non, non, s'il te plaît, Vito. Hein. Que quelqu'un tienne Vito. Attends, des fois, il suffit que je relance un peu. Et aussi, pour préciser une chose, Luc ne vous l'a pas dit, il ne vous le dira pas, c'est que c'est Luc qui m'a parlé du Seigneur en fac de philo. Donc, Luc est mon ami de plus de 30 ans, avec Manu, ce sont mes amis, mais c'est aussi mes parents spirituels aussi. Ça ne rajeunit pas, ouais. Est-ce qu'éventuellement vous avez un autre adaptateur comme ça, sous la main? Non, non, un autre comme ça. Parce que des fois, ça peut venir du truc lui-même. C'est arrivé. Luc en a peut-être un. C'est arrivé dans une église récemment à Toulouse. Ça, c'est un truc Apple. J'ai essayé un truc non Apple, ça marchait mieux que le truc Apple. Allez comprendre. Oui, c'est ça. Exactement ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça, ça peut venir de là aussi.
Sinon, t'as toujours le truc avec le marteau.
Des fois, c'est même ça. Oui, il se passe quelque chose là.
Il se passe quelque chose.
Voilà. Voilà, ça venait de l'adaptateur. Alors, bienvenue dans ce séminaire. Je ne m'attendais pas à trouver autant de monde. Hein. Je suis surpris, agréablement surpris. Bienvenue dans ce séminaire sur le Père, l'amour du Père. Et comme l'a précisé Luc, j'aimerais que vous considériez le culte comme faisant partie du séminaire, parce qu'au culte, j'aimerais apporter quelque chose de pratique, de très très pratique, il me semble. Qui donnera vraiment la dimension pratique de ce séminaire et la mise en pratique, Et pourquoi je tiens vraiment beaucoup à ce que vous soyez là, si vous êtes de passage, c'est parce que c'est un message qui sera donné, qui a fait l'objet d'une recherche, d'une longue recherche. Mon but, c'était de mettre les gens en relation avec le Père. Ça a toujours été ma vocation. Et je crois que le Seigneur m'a donné vraiment une clé. J'aimerais vraiment vous la livrer, cette clé. Hein? Donc, s'il vous plaît, prévoyez d'être là au culte, hein, surtout considérez le culte comme faisant partie intégrante de ce temps. Dans Ésaïe 9, versets 5 et 6, vous avez ce passage extraordinaire. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et juste pour... pourquoi je cite ce verset? C'est parce que dans ce même verset, il est dit que le Fils qui nous a été donné, il est le Père éternel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait partie de ces chrétiens qui avaient vu le Christ, mais n'avaient pas vu le Père. Exactement comme Philippe qui fait une demande à la fois stupide et géniale, à notre image. Nous sommes stupides et géniaux. Il dit... Montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors c'est génial parce qu'effectivement, si nous pouvons voir le Père, franchement, avons-nous besoin de quelque chose d'autre que de voir le Père? Parce que voir le Père, c'est voir l'amour, c'est voir la bonté même, c'est plonger dans le sens même de notre existence, c'est plonger dans notre identité, c'est plonger dans tout ce dont en fait nous avons vraiment besoin. Parce que quand on regarde sociologiquement dans le monde entier, les gens soit bénis par un père, soit ils sont maudits par un père. Et l'absence du père est une grande douleur dont je vais parler dans quelques instants. Et finalement, cette idée de voir le père, si on peut voir le père, eh bien, on est en contact avec la source même de toute consolation. Et donc, Philippe, Jésus va répondre à Philippe, « Mais ça fait tant de temps que tu es avec moi et tu n'as toujours pas vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis en toi, que le Père est en moi et que je suis dans le Père, et comme d'ailleurs je suis en vous, vous êtes en moi. » Ça, c'est la réponse que Jésus va faire à Philippe. Réponse que, pendant longtemps, je n'ai pas comprise non plus. J'avouerai que je n'ai pas trop compris comment Jésus pouvait être dans le Père en Jésus. Et puis surtout comment finalement la Trinité peut être en nous et nous dans la Trinité, j'ai pas bien compris parce que encore quelque chose de petit soit dans quelque chose de grand, ça je peux bien le concevoir, mais comment quelque chose de grand peut être dans quelque chose de petit comme moi, j'avais du mal à le concevoir. Donc j'étais vraiment à l'image de ce Philippe, et je pense que la réponse que Jésus a fait à Philippe l'a rendu encore plus perplexe, quoi. Et pourtant effectivement je voudrais parler d'abord la première partie de la réponse. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi, et quiconque m'a vu a vu le Père finalement. Je réalise que nous, chrétiens, on peut être, vous savez, on aime à dire qu'on est christocentré, c'est-à-dire qu'on est centré sur le Christ. Et je pense que je réalise qu'il y a deux manières d'être christocentré. Il y en a une bonne, puis je pense qu'il y en a une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise manière d'être christocentré, c'est d'être centré sur le Christ, mais sans réaliser finalement de manière assez passive, assez figée sur le personnage, sur la personne du Christ, sans comprendre pourquoi le Christ est là finalement. Quelle a été sa mission? Et pour moi, être christocentré, c'est pas juste être concentré sur la personne du Christ, mais c'est aussi concentré sur sa mission. Et si on regarde bien la mission du Christ, ça n'a pas été de se montrer lui-même, c'était toujours de révéler qui est le Père. Et donc, si on se concentre sur Christ de la mauvaise manière, on va voir que le Christ. Alors que si on se concentre sur le Christ de la bonne manière, on va voir le Christ, bien sûr, mais on va voir aussi celui qu'il est venu nous montrer. Et quelque part, Philippe, il était christocentré de la mauvaise manière. C'est qu'il était depuis un certain temps avec le Christ, il voyait le Christ, il avait toujours le Christ devant lui, etc. Mais il avait perdu de vue que le Christ était venu pour nous montrer le Père. Et c'est pour cette raison, je crois que c'était important de relire ce passage d'Ésaïe 9, 5 à 6, pour montrer que ce Fils qui nous est né, il est le Père éternel. Et puis, une autre chose concernant la deuxième partie de la réponse, c'est la deuxième partie, c'est « Mais ne sais-tu pas que je... » Donc, le Père est en moi, je suis dans le Père, ça, on peut à la rigueur dire « Ouais, on comprend. » Mais comment nous pouvons être en lui et lui en nous ? Là, c'est un peu plus délicat. Et un jour, je posais la question au Seigneur, je lui dis « Mais comment on peut comprendre ça ?» Encore une fois, moi, petit, je peux être dans le grand, mais comment le grand peut être dans le petit ? Et le Seigneur m'a dit « Demande à l'éponge, Pierre. » L'éponge. Ou demande aux coraux, hein, ces pierres vivantes, hein, Luc, hein, qu'on a vu, on a eu la chance de voir des pierres vivantes, Luc et moi. C'était l'expression de Luc, je crois, en sortant de l'eau. On a vu des coraux comme ça. Vous savez, les coraux sont des animaux, en fait. Hein, et en sortant de l'eau, il a dit, Pierre, ce sont des pierres vivantes qu'on a vues là. Et ça m'a parlé, effectivement, cette idée de pierres vivantes. Parce que les pierres vivantes en question, que sont les coraux, ou prenons l'image aussi de l'éponge. L'éponge est dans la mer et la mer est dans l'éponge. Tout simplement. C'est-à-dire que comment la Trinité peut être en nous et nous dans la Trinité ? Ben de la même manière que l'éponge est dans la mer et la mer est dans l'éponge, tout simplement. Alors que si vous lancez un galet dans la mer, le galet va être dans la mer, n'est-ce pas ? Mais la mer ne pourra pas être dans le galet, vous avez tout compris. Donc cette idée d'avoir un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, je pense que ça prend du sens tout d'un coup. Hein. Parce que ça veut dire que ce cœur de chair, finalement, c'est un cœur fait de faiblesse, d'aspérité, de trous. Mais ces faiblesses, ces aspérités, ces trous ne sont pas tant des périls, finalement, ou des dangers, que des capacités que le Seigneur a de pénétrer ces trous, d'entrer dans ces trous, et finalement d'entrer dans nos vies, finalement. Parce que finalement, le monde nous propose deux manières d'être fort. Enfin, une manière d'être fort. C'est de nous fortifier, nous endurcir. Alors que finalement, quand on regarde l'apôtre Paul, quand il parle de la vraie force, il parle toujours de la vraie force en rapport avec une vulnérabilité qui a été librement consentie. Hein, ça, c'est le secret de la force de Paul. C'est de dire que c'est quand je suis faible que je suis fort en réalité. Autrement dit, Paul, après avoir été un gros galet, je pense que ça a été un galet vraiment bien décoré, j'imagine la vie de Paul comme un galet plein de force, vous savez, je pense que c'était un génie de l'humanité, quelqu'un qui a certainement un QI bien au-dessus de la moyenne, aussi quelqu'un qui est capable d'obéir à toute la loi de Moïse, excusez-moi, c'est quand même 615 commandements, quand même, la loi du judaïsme a 615 commandements, c'est quand même pas mal, il était exact dans la loi de ses pères, zélé pour la loi de ses pères, donc il y a une sorte d'athlète moral en Paul que l'on voit, mais on voit que c'est l'athlétisme moral, cette force, cette intelligence, finalement, l'ont amené dans une forme d'extrémisme religieux, dans une forme de fondamentalisme qui l'ont amené finalement à persécuter et à rater finalement ce pourquoi, ce qu'ils cherchaient le plus finalement, c'est à plaire au Seigneur finalement. Et vous connaissez tous ce passage sur le chemin de Damas où il va en plein jour, en plein midi, il voit une grande lumière. Et imaginez la grande lumière que ça a dû être, en plein midi, de voir une grande lumière. Enfin, ça me fascine toujours d'imaginer une grande lumière, surtout par là-bas, en plein midi. Et puis cette grande lumière qui le rend aveugle, et qui révèle finalement son aveuglement religieux, finalement. Et suite à cette expérience, eh bien, toute sa théologie va être comprise dans cette rencontre. Cette rencontre qu'il va faire en tombant de lui-même, en tombant du sommet de lui-même vers la partie la plus basse de son existence. Et c'est là, quand il va se retrouver dans la partie basse de son existence, qu'il va prendre plaisir en ses faiblesses. Il va prendre plaisir en ses failles, en ses trous. Parce qu'il va découvrir que, en fait, le Seigneur ne se rencontre pas tant... Bien sûr, le Seigneur se rencontre dans nos points forts. Mais nos points forts, vous savez, ils ont tous un risque, nos points forts. Nos points forts, c'est qu'ils peuvent tous nous rendre finalement indépendants de Dieu. Parce qu'on peut tellement s'appuyer sur nos points forts que finalement, nos points forts peuvent réussir qu'à une seule chose finalement, malheureusement. Hein. En plus de montrer bien sûr qui est le Seigneur, bien sûr, les points forts montrent toujours quelque chose du Seigneur, mais à titre personnel, ces points forts peuvent nous rendre finalement assez indépendants parce que vous êtes d'accord, quand on sait faire quelque chose, on n'a pas besoin du Seigneur. Mais par contre, quand on est faible, On appelle à l'aide. Et cet appel à l'aide, il est extraordinairement fondateur de notre christianisme, parce que c'est comme ça qu'on se rend dépendant, on se rend volontairement dépendant, à cause de nos faiblesses, justement, du Seigneur. Et là, dans cette dépendance, eh bien, il y a sa grâce qui vient, il y a sa présence qui vient, parce qu'il y a eu cet appel au secours. Je me rappelle, c'est John Wimber, à une époque, qui disait, vous savez ce que c'est l'onction? C'est quand vous dites « au secours, Seigneur ». Voilà, c'est ça l'onction. Il définissait l'onction par ce cri que l'on lance vers les cieux en disant « au secours, Seigneur ». Et dans ce « au secours », dans cette reconnaissance de notre faiblesse, eh bien, sa force peut venir. C'est pour cette raison que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». C'est pas une méthode couée, c'est que le faible, en réalisant sa faiblesse, va dire « Seigneur, viens par ta force et que je sois fort par ta force ». Et donc Paul va prendre plaisir en toutes ses failles. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous aussi ce soir, c'est que si vous êtes venu avec une faille ici, soyez les bienvenus. Parce que ces failles, si Dieu a choisi de ne pas les refermer éventuellement, c'est peut-être par cette faille-là que le Seigneur rentre dans votre vie. Ces faiblesses, ces trous, c'est ces endroits par lesquels justement sa vie peut rentrer et sortir. Et je ne sais pas aussi, vous savez, si vous avez vécu des choses difficiles, si elles ont laissé des faiblesses en vous, ces choses difficiles, certainement qu'elles vous ont rendu certainement plus compatissant aussi. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, si nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus, et il n'y a que dans ces meurtrissures que nous pouvons être guéris, nous ne pourrons jamais guérir les gens dans nos meurtrissures, ça, ça paraît évident. Mais par contre, dans nos meurtrissures, nous pouvons compatir avec les gens. Je pense que quand on est passé par des choses difficiles, tous ceux qui ont eu un lumbago ce soir, et ils sont venus me consoler, m'ont dit « Oh là là, Pierre, qu'est-ce qu'on te comprend ?» C'est ça la compassion, vous comprenez? Mais si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un lumbago, vous ne pouvez pas compatir avec moi. Voilà, c'est une plaisanterie, bien entendu. Hein. Avant de venir à cette chanson-là, pensez à ces faiblesses comme un lieu de contact. Juste un mot concernant mon beau-père. Mon beau-père a vécu une vie morale toute sa vie. Pour moi, ça a même été un père exemplaire, je peux dire. C'était même un père de substitution pour moi. Mais à la fin de sa vie, je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, mais à la fin de sa vie, mon père a fait une bêtise. Mon beau-père a fait une bêtise. Cette bêtise, en fait, c'était une bêtise à ses propres yeux. Parce qu'on peut faire des bêtises et pas les voir comme ça. Hein. Mais pour lui, ça l'a profondément déçu sur lui-même. Parce qu'il a vu que cette bêtise avait fait souffrir autour de lui. Et il s'en est voulu. C'est comme si, vous voyez, il s'était déçu lui-même, profondément déçu lui-même. Et bien, c'est parce qu'il s'était profondément déçu lui-même qu'il a eu la faille de sa vie. Et c'est par cette faille que Jésus est entré. Autrement dit, je me rappelle un prof de théologie, il disait, vous savez, Dieu a fait une œuvre incroyable pour nous sauver, et nous avons fait notre part. Nous avons péché. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. À cause de ce péché, finalement, nous sommes ouverts au salut. Si nous n'avions pas péché, nous n'aurions pas, ou si nous n'avions pas eu l'impression d'avoir péché. Pour cette raison qu'être convaincu de péché, c'est la plus grande chose qui pouvait nous arriver de bien. Parce que, en fait, c'est découvrir que nous sommes faibles et que nous avons besoin d'un sauveur. Hein. Quelle grâce que découvrir sa propre faiblesse. Concernant le thème sur le Père, pourquoi ce thème est un thème si important dans la francophonie, je voudrais juste l'illustrer par ce chant. On n'a pas le temps de l'entendre, mais vous le connaissez, cette chanson. Hein? C'est Papa Outé. Papa Outé. Vous savez que ce Papa Outé joue sur... C'est un mot-valise, en fait, ce qu'on appelle un mot-valise. C'est un mot, c'est un jeu de mots, en fait. Papa Outé, c'est bien sûr, ça veut dire papa où tu es. La question est posée, papa, où est-ce que tu es en fait? Où est-ce que tu es? Hein, tu es où? Et bien sûr, si c'est le premier sens, c'est ce sens-là qu'on retient, eh bien papa Outé, c'est la question que Stromae pose dans cette chanson à son propre père. Stromae a pleuré en écrivant cette chanson. Parce que Stromae donc, est d'un père rwandais qui était un coureur de jupons, ce père-là. Et donc, il ne pouvait pas, vous comprenez, courir les jupons et puis être un père en même temps et un mari pour sa femme.
Sa femme a dû quitter le Rwanda, d'ailleurs, femme belge, a quitté le Rwanda, elle est retournée en Belgique avec son fils pour quitter cette situation et puis sans doute l'extraire à cette situation un peu toxique pour l'enfant et le protéger. Mais l'enfant, du coup, a grandi sans papa. Et cette chanson, c'est le cri d'un enfant qui grandit sans papa, qui, vous savez, qui grandit sourdement avec cette absence, sans savoir que finalement c'est un manque qui est en train de se grandir. Et puis tout d'un coup, ce manque va apparaître bien des années plus tard, sous la forme d'un cri, sous la forme d'une chanson. Papa outé. Mais papa outé, c'est aussi en papa outé, c'est aussi un mot de l'argot français qui veut dire tromper. En papa outé, ça veut dire tromper. Effectivement, le père de Stromae était un trompeur et a trompé sa maman tant et tant de fois. Papa outé, en papa outé. Et malheureusement aussi, ça a une connotation aussi sexuelle, qui veut dire saisir sexuellement quelqu'un. Et malheureusement, dans le monde entier, l'image des pères est aussi endeuillée par cette image aussi de pères abusifs qui peuvent blesser par leurs paroles, peuvent blesser par leurs gestes, mais aussi qui peuvent aussi malheureusement commettre l'inceste. Et c'est malgré tout des images toxiques comme celle-ci qui sont mises en avant. Vous rappelez comment se termine le... Ça, c'est la dernière image, en fait. Le fils qui, pendant toute la chanson, va essayer de réveiller son père, va essayer de le faire danser. Il y a une chorégraphie extraordinaire. Il va essayer d'attirer l'attention de son père. Et moi, ça m'émeut beaucoup parce que je me dis, quand on a manqué de l'affection d'un père, on peut être tenté, bien sûr, quand on est enfant, de chercher, mais qu'est-ce que je vais faire pour attirer l'attention de mon père ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis plus tard, si on devient chrétien, le danger est tout aussi grand de vouloir faire la même chose avec Dieu, de vouloir finalement faire des choses qui vont attirer l'attention du Père. Nous allons essayer de plaire à Dieu. Vous savez, ce verset, c'est cette chose qu'on entend toujours dans l'Église, il nous faut plaire au Seigneur. Eh bien, pour certains, plaire au Seigneur, ça veut dire essayer d'attirer son attention pour essayer de se faire aimer de lui, pour essayer de le convaincre qu'il peut nous aimer. Et puis, au cours des années, on se dit, ben non, le Seigneur ne peut pas m'aimer parce qu'il y a ça et ça dans ma vie. Ce n'est pas possible qu'il m'aime. Et du coup, on ne sait plus définir l'amour. On définit l'amour à partir de nos expériences d'enfant, de nos traumas d'enfant et de nos images toxiques d'enfant. Mais je vais y revenir. Mais avant de passer à la diapo suivante, et Dieu sait, ça aurait été intéressant d'entendre à nouveau cette chanson, Papa outé, Papa outé. Vous savez combien de fois cette vidéo a été vue sur YouTube ? Juste pour essayer qu'on imagine l'actualité que le Père a aujourd'hui. Pourquoi un séminaire comme celui-là est tellement important ? Pas seulement dans l'Église, mais je crois dans toute la francophonie. Combien, à votre avis ? Deux fois. Allez, on y va. Sur la gauche, là, vous lancez un chiffre. Hein ? 250 millions, ici. Allez. 1,2 milliard. Waouh. Waouh. Wow, carrément, quoi. Et ici ? 3 millions ? 3 millions ? Et là-bas ? 50 millions. 500 millions. Eh ben, tu as raison. C'est ça. On est à 500 millions de vues. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le rêve de tout artiste d'avoir 500 millions de gens qui voient cette vidéo, quoi. Vous imaginez, 500 millions de fois. Ça montre, si c'était en vrai encore besoin, que l'importance de cette question. Parce que tout le monde se reconnaît dans cette question, papa outé, en fait. Papa outé. Il y a, je vous l'ai dit, il y a des images toxiques qui peuvent venir effectivement de notre propre enfance. Ces images toxiques, il faut qu'on en prenne conscience, qu'elles peuvent polluer notre relation avec Dieu. c'est pas moi qui l'invente, ça. C'est un homme qui s'appelle Paul Witz, qui est psychologue, qui a rencontré le Seigneur, d'ailleurs, dans sa maturité. Il est professeur de psychologie à Harvard, je crois, en tout cas une de ces grandes universités internationales. Je pense, il me semble que c'est Harvard. Et Paul Witz donc, a rencontré le Seigneur dans sa trentaine. Donc, il n'a pas rencontré le Seigneur quand il était petit, il a pas, ni adolescent, ni à la vingtaine. Non, c'est dans sa maturité. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il faisait l'étude suivante. C'est-à-dire qu'il essayait de comprendre la psychologie de l'athéisme. Qu'est-ce qui fait que l'on devient athée ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient athée ? Et il s'est posé cette question et donc il a décidé d'étudier finalement la psychologie de l'athéisme. Et pour ça, il a forcément pris des cas, comme tout psychologue qui se respecte va le faire, va prendre des cas d'études, et il va prendre les plus grands athées que la Terre ait portés. Et donc, il va faire une étude sur les plus grands athées que la Terre a portés, et Marx, Freud, et va découvrir une chose, c'est que ces gens sont devenus athées. Alors, je ne parle pas agnostique. Hein. Attention, un athée, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il ne croit pas en Dieu et il affirme que Dieu n'existe pas. Et pourquoi je ne crois pas en Dieu, il est capable de motiver. De la même manière, d'ailleurs, je pense que nous, chrétiens, on devrait dire pourquoi nous sommes chrétiens et quelle est la raison de notre espérance. On devrait pouvoir être capable, comme le dit l'Écriture, de rendre compte de notre espérance. Eh bien, chez Paul Witz, il y avait cette idée qu'il fallait étudier ces athées, pas les agnostiques, des gens qui disent « je ne sais pas ». Non, des gens qui affirment clairement leur athéisme. Et ce qu'il va découvrir, c'est que l'affirmation de leur athéisme est toujours tendue par une enfance avec un père absent ou un père abusif. Je voudrais juste rappeler que Sigmund Freud est un juif à l'origine, a fréquenté la synagogue quand il était enfant. Mais vous savez, d'avoir un père qui impose des fellations à ses frères et sœurs, ça n'aide pas à aimer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Freud s'est détourné. Vous savez que ça, c'est dans les biographies de Freud, en anglais, en allemand, pas en français. On a extirpé cette partie en français parce qu'en France, on est en adoration devant Freud et on ne voudrait pas que ce genre de détails soit connu en français, alors que les Allemands, les Anglais, eux, ont retranscrit ce fait dans la biographie de Freud sans le cacher. Ça expliquerait aussi pourquoi Freud se soit beaucoup intéressé aussi à toutes les névroses. Et sa conviction, c'était que les névroses étaient liées à des pratiques terribles, comme l'inceste notamment. On peut comprendre pourquoi, parce que sa propre histoire pouvait y avoir un autorisé, étant donné qu'un de ses frères était effectivement névrosé et il avait vu son père donc faire des choses terribles à son frère. Donc vous voyez, ça c'est juste un exemple et on est vraiment dans la toxicité là. Et cette toxicité fait que ces gens vont rejeter l'image du Père et par voie de conséquence, ils vont rejeter l'image ultime du Père, qui est l'image de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous-mêmes, nous pouvons aussi avoir des images toxiques. J'espère qu'elles ne sont pas aussi graves que celles-ci. Combien même elles seraient aussi graves, je crois, à la guérison du Seigneur de tout mon cœur. Je connais des cas de grande guérison dans ce domaine-là. Et ça fait partie de ce ministère, justement, de voir des guérisons se produire. Le Seigneur nous a donné la grâce de voir ces choses-là. C'est magnifique. C'est juste magnifique. On peut avoir des images toxiques pour d'autres raisons. On peut avoir un père, par exemple, qui va nous aimer que lorsque nous faisons le bien, par exemple, mais qui va nous massacrer, par exemple, avec ses mots, avec son regard, quand nous faisons le mal. Et du coup, très vite, dans notre vie, on va avoir l'impression que l'amour, finalement, est conditionnel à ce que je fais. C'est-à-dire, si je fais le bien, je suis aimé de mon père ou de ma famille. Si je fais le mal, je ne suis pas aimé, je suis même haï de ma famille. Et le danger, vous savez, de ces modèles parentaux dans lesquels nous avons peut-être tous grandi, parce qu'en fait, il n'y en a que deux, en gros. Hein. Est-ce que, et ça m'arrive souvent de poser la question, justement, à l'ISP, est-ce que vous avez grandi dans un milieu où que vous fassiez le bien ou le mal, vous étiez toujours aimé? Ou est-ce que vous avez grandi dans un milieu où que vous fassiez le bien ou le mal, il y avait de grandes différences. C'est quand vous faisiez le bien, vous étiez aimé. Quand vous faisiez le mal, vous sentiez la morsure de la haine et du mépris. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous été égaux de ce côté-là. C'est vrai qu'on a grandi dans des milieux différents. Mais c'est vrai que si nous avons grandi avec un amour conditionnel, vous voyez ce que je veux dire, cet amour conditionnel, eh bien, il va falloir qu'on rencontre Dieu le Père comme étant celui qui nous donne l'amour inconditionnel. Mais forcément, ça va être une lutte dans notre vie. Par contre, ceux qui ont été élevés de telle sorte que même quand ils faisaient des bêtises, même s'ils étaient disciplinés, ils se sentaient quand même aimés, eh bien, pour eux, l'idée de l'amour inconditionnel, est bâtie dans leur éducation et donc ils n'auront pas de mal avec ça. Vous voyez, on part pas tous du même point. On peut aussi avoir grandi, par exemple, avec un père absent. Ça a été mon cas, d'ailleurs. Mon père était lui-même un fils qui avait perdu son père à l'âge de 5 ans. Mon père n'a pas connu son propre père. Donc, il a grandi avec l'affection d'une maman qui n'a jamais voulu se remarier parce qu'elle avait tant aimé ce mari qu'elle a jamais exprimé le besoin de pouvoir donner son amour à un autre homme. Et elle a élevé seule ses deux enfants, ses deux garçons. Et mon père, quand il a eu ses 5 enfants lui-même, a été un père pourvoyeur, mais un père quand même absent. C'est-à-dire qu'en fait, affectueusement, il ne savait pas trop quoi faire avec ces deux trucs qui pendent le long du torse qui s'appellent des bras. C'est ce que j'appelle les pères troncs, vous savez, ces pères qui sont là, présents, mais qui sont absents en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment on fait avec les bras. Et je pense que l'Europe a été quand même assez remplie de ces pères troncs à cause des différents conflits mondiaux qu'il y a eu, 1870, 14-18, 39-45, des enfants qui grandissent donc sans leur père. Leur père n'est pas revenu de la guerre. Et du coup, il y a vraiment un manque incroyable de l'affection. Et du coup, on a l'impression que, à cause du fait que le père est loin de nous, on a l'impression que le Père céleste, le Père, on l'appelle d'autant plus céleste, d'ailleurs, qu'il est loin. Hein. Sauf que Jésus va nous révéler un Père qu'il appelle Abba. Et une chose est sûre, c'est qu'Abba, pour Jésus, ça veut dire que le Père ne veut pas seulement être un Père céleste, mais aussi un Père terrestre pour nous. On a des auto-images, donc ces expériences vont faire des auto-images. J'aurais pu prendre aussi un autre exemple d'un Père qui serait particulièrement passif dans les décisions, particulièrement manipulable. Du coup, on va avoir une image de Dieu comme une sorte de Père Noël, finalement, qui est particulièrement manipulable, qui n'a pas d'exigence, qui est un Père mou, finalement. Et on risque, effectivement, de projeter ces images du Père sur notre Père. Et pourtant, attention aux auto-images. Attention aux auto-images. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une auto-image ? Ce sont nos propres images que nous plaquons sur Dieu. Et Exode 20, verset 4, Deutéronome 5, 8 et Lévitique 26, 1 vous mettent en garde contre le fait de vous faire vos propres représentations. C'est ça les images. C'est Luc qui en parle très très bien dans tous les enseignements qu'il donne dans l'éducation chrétienne. Il dit attention aux auto-images. C'est pas l'art chrétien qui est condamné dans ces versets, c'est le fait que nous nous fassions nous-mêmes une représentation privée de qui est le Seigneur. Et quand nous nous faisons une représentation privée de qui est le Seigneur, à partir d'éléments privés, c'est ça précisément des auto-images. Alors qu'est-ce qui peut venir contrebalancer le pouvoir de ces auto-images dans nos vies qui peuvent être soit conscientes, et ça ce sont des idoles en fait, ou alors inconscientes, eh bien c'est bien sûr la révélation. Il nous faut une fraîche révélation de qui est le Seigneur, de qui est le Père. Parce qu'en aucun cas, nous pouvons demander à notre histoire de nous dire qui est le Père. La seule personne qui est en mesure de nous dire qui est le Père, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas nos traumatismes. J'ai envie de dire, ce n'est pas nos bonnes expériences non plus. Parce que si nous pouvons faire des auto-images à partir de nos traumas, nous pouvons faire aussi des auto-images à partir des bons points que nous avons constatés chez nos parents. Et ça n'en demeure pas moins des idoles. Aussi. Parce que quand nous exaltons une image que nous avons connues dans notre enfance, de papa par exemple, et que nous disons, ben, finalement Dieu c'est papa exposant d'eux, eh bien visiblement nous nous sommes fait une auto-image. Et fatalement, cette image devra un jour se décoller de celle qui est la véritable image. Et Jésus est l'image même et la seule image possible du Père. C'est lui qui vient nous révéler le Père dans son exactitude. Voilà, nous oscillons finalement entre ces deux côtés-là. Ce sont des auto-images. Soit le Père, Père Noël, hein, un peu, soit le Père au contraire, waouh, le Père fouettard, le Père juge, le Père légaliste. Et finalement, voyez-vous, si notre révélation n'est pas fondée, nous pouvons passer de l'un à l'autre très facilement. Nous pouvons passer d'un père qui distribue des bonbons, finalement, à un père, à une sorte de Dieu très très dur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, vous Français, d'où vient le mot Dieu. Est-ce que vous savez d'où vient votre mot Dieu, le mot que vous utilisez pour parler du Seigneur? Il vient de Zeus, effectivement, par le truchement tout simplement du mot latin Deus. De toute façon, il faut vous dire très clairement que toutes les langues non sémitiques, les langues hébreux, non hébreux, puisqu'il n'y a qu'au peuple hébreu que le Seigneur a donné ses noms. Et d'ailleurs, c'est dommage que, à part la Bible Chouraki, d'ailleurs, qui reprend les noms hébreux, qu'on ait voulu les traduire, ces noms, à mon avis, on aurait dû les laisser tels quels dans leur jus. Ça nous aurait peut-être aidé à comprendre que nous sommes issus d'Israël. Mais au lieu de ça, eh bien, nos traductions bibliques ont tout édulcoré ces noms de Dieu et les ont des noms hébraïques finalement et les ont essayé de les traduire. Je pense que ça aurait eu une certaine vertu de garder finalement le nom hébreu, quitte à mettre une petite traduction en bas, pas de problème. En tout cas, c'est ce que Chouraki fait. Je vous invite à lire la Bible Chouraki. Chaque fois qu'il y aura El Shaddai décrit, ben, il le met intégralement El Shaddai. Et donc, toutes les cultures, en fait, ont dû passer par ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cultures non hébraïques à qui le Seigneur ne s'est pas révélé en direct ont dû aller chercher dans leur culture, vous voyez, dans leur passé culturel, une image de Dieu la plus haute possible pour essayer de désigner le Dieu de la Bible. Toutes les cultures ont fait ça. Et c'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire, il fallait trouver un équivalent linguistique qui nous permette de rendre compte du Dieu des dieux. Et donc, pour essayer de trouver dans notre propre culture un mot qui le nomme. Et finalement, eh bien, en notre culture, nous sommes en Europe, des fils de Javan, des fils de la Grèce, nous avons été à chercher le dieu des dieux du panthéon grec, et ce dieu des dieux du panthéon grec, ben, c'est Zeus, ou si vous préférez, en latin, Jupiter. Et du coup, Zeus est devenu Deus en latin, et Deus est devenu Dieu, Dio, Dios, pour toute la partie de l'Europe occidentale. Maintenant, pour l'autre partie de l'Europe, c'est intéressant, les Allemands, par exemple. Les Allemands, c'est Gott. Et Gott, en fait, quand vous regardez l'origine du mot Gott, vous trouvez un dieu hyper militaire, en fait, hyper violent, dans la mythologie allemande, qui réclame des sacrifices. Du coup, ça vous fait trembler quand vous lisez la devise de Hitler, « Gott mit uns ». Vous comprenez? Vous dites, mais à quel Dieu il faisait référence, quelque part? Est-ce que ce n'est pas une image toxique de Dieu, d'ailleurs ça peut être que ça, qui l'a conduit à massacrer le peuple de Dieu, justement, hein, le peuple de Yahweh, hein? Donc, vous voyez, ces images toxiques qui peuvent se glisser à cause de la langue. Et vous savez que ce qu'on appelle la neurolinguistique nous enseigne que nos mots ne sont pas sans conséquences. Les mots que nous prononçons sont des boomerangs que l'on renvoie, qui reviennent sur nous à un moment donné, et qui nous renvoie à quelque chose. Donc, quand nous disons Dieu, même si nous parlons du Père de la Bible, bien entendu, vous savez, ça ne peut pas être tout à fait innocent en Europe quand on sait les origines du mot Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Et ça rend d'autant plus important cette révélation de, de Jésus qui va nous montrer qui est en vérité le Seigneur. Donc je vais éviter d'utiliser le mot Dieu, je vais utiliser le mot Seigneur, je vais utiliser le mot Père. Je ne veux pas lancer une mode au milieu de nous, attention, hein. Je ne suis pas en train d'essayer de lancer une mode, mais c'est juste que je voulais que vous preniez conscience du combat qui est le nôtre, à partir de nos propres images, de nos auto-images, de traumas d'enfance et éventuellement de notre passé culturel. Voici les trois sources au fond qui fait que nous avons besoin de la fraîcheur d'une révélation pour comprendre qui est le Seigneur. Et cette révélation, bien sûr, c'est Jésus qui va nous la donner. Jésus est l'image parfaite du Père. Il est l'exégète parfaite du Père. Il est la révélation parfaite du Père. C'est Jésus qui peut nous parler du Père en vérité, puisqu'il vient de sa part, il est le Père en même temps, c'est un mystère, il vient de la part du Père, mais il vient aussi, il est le Père lui-même, pour nous montrer qui est le Père en vérité, et c'est seulement si nous voyons clairement qui est ce Père, que nous allons pouvoir, ces images, ces deux images toxiques vont pouvoir se détacher. Mais vous comprenez que tant qu'on n'a pas cette révélation centrale, nous allons osciller, nous pouvons osciller entre les deux. D'ailleurs, à quel moment nous oscillons du côté droite de la diapo ici? À quel moment, à votre avis? Alors, c'est plutôt la partie gauche quand on a péché. Hein, on cherche plutôt, on se dit, tiens, ça serait bien quand même une sorte de complaisance de la part du Seigneur. Donc, on cherche plutôt la complaisance du côté gauche. Ça, c'est plutôt quand tu es blessé. La partie droite, tu aimerais bien que Dieu soit comme ça, contre tes ennemis, n'est-ce pas? Tu aimerais que Dieu se montre fort et violent contre tes ennemis, et donc du coup, quelque part, mentalement, intellectuellement, spirituellement, tu convoques l'image de Zeus, tout en convoquant l'image de Dieu. D'ailleurs, je suis étonné que dans nos milieux évangéliques, nous les évangéliques, nous pouvons des fois être fondamentalistes, et invoquer des images de haine tout au nom de Dieu. Nous sommes capables de ça, même dans les milieux évangéliques. Nous sommes capables de justifier le meurtre. Nous sommes capables de justifier la haine, même au nom de Dieu. Et ça, c'est ce côté fondamentaliste qu'on doit aussi détecter en nous, qui vient certainement aussi de ces images toxiques. Certainement. Nous devons être fidèles aux Écritures, mais attention au fondamentalisme religieux, qui peut des fois faire peur. Désolé, mais Trump est un fondamentaliste religieux qui des fois fait un peu peur, vous croyez pas, de temps en temps, hein. Donc ça, c'est un tableau de Rembrandt qui se trouve au musée de l'Ermitage en Russie. Et paraît-il que pour voir ce tableau, eh bien, il faut faire la queue. Et que quand vous êtes enfin devant ce tableau, il y a quelqu'un qui vous bouscule parce qu'il veut le voir aussi, lui. Donc il paraît que ça devient très difficile. Donc je ne sais pas comment Henri Nguyen, vous savez, vous avez entendu parler d'Henri Nguyen? Quelqu'un a lu le livre d'Henri Nguyen sur le Père? Henri Nguyen a passé des heures à méditer. D'ailleurs, il a reçu la vocation de sa vie devant ce tableau. Comme quoi, l'art, les amis, s'il y en a qui sont appelés à l'art ici, c'est un très beau ministère parce que c'est devant cette peinture que Henri Nguyen a reçu la vocation de sa vie. Il était prof d'université et il est devenu un homme qui a lancé un ministère auprès des enfants trisomiques en contemplant ce tableau. Nguyen, N-O-U-W-E-N. N-O-U-W-E-N. Et dans son livre, il commente ce tableau de manière extraordinaire. Il rappelle la vie de Rembrandt. Rembrandt était à la fin de sa vie quand il a peint ce tableau. Ce n'est pas le dernier tableau, c'est l'un des derniers tableaux. Et vous devez juste savoir une chose, c'est qu'au moment où il peint ce tableau, il a enterré deux fois sa famille. Une première fois sa première famille, ses enfants et sa femme. Il se remarie, il a à nouveau une femme et des enfants, et il va enterrer une deuxième fois cette deuxième famille. Donc c'est quelqu'un à qui, je dirais, la vie n'a pas fait de cadeau, on ne peut pas dire. Il a souffert énormément de la perte personne ne devrait devoir enterrer ses propres enfants, et Henri Nguyen a enterré deux épouses et leurs enfants. Voilà, Rembrandt, j'ai dit Nguyen, c'est Rembrandt qui a enterré ça. Et dans ce Rembrandt a aussi vécu une vie de potachon. On voit d'ailleurs des autoportraits de Rembrandt en train de se peindre, il est en état d'ébriété, hein, de toute évidence. Donc en fait, Rembrandt s'est reconnu dans le cadet, s'est reconnu dans l'aîné, s'est reconnu dans le père aussi, et on pense même que ce tableau, il y a 3 autoportraits en fait. Rembrandt s'est peint dans les 3 personnages principaux d'une parabole qu'on va regarder ensemble. Mais avant qu'on aille voir cette parabole, je voudrais qu'on considère 3 déclarations surprenantes de Jésus concernant le Père. Alors en fait, pour être exact, il y en aura 2 qui viennent de Jésus, il y en a une qui vient de Jean. Je voudrais qu'on les considère pendant quelques instants, parce qu'elles ont été un mystère pendant longtemps pour moi, et me semble avoir compris. J'aimerais vous proposer une lecture de ces 3 déclarations. La première, c'est « N'appelez personne Père sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est au ciel. » Et je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, et régulièrement d'ailleurs dans ma vie chrétienne, c'est revenu, je ne sais pas si ça a été votre cas, parce que pour certains d'entre vous, c'est encore un mystère ce verset, ça vous questionne ce verset, ou si tout le monde a déjà sa réponse. Non, ça va? Non? Non, c'est bon? Je peux vous aider? Ah ben je peux aider 2 personnes là-bas, ça va être génial. Alléluia. Pourquoi il y a ce verset? Alors, bizarrement, je vais faire un petit passage par l'islam, si ça ne vous ennuie pas. Je suis aussi un missionnaire derrière le voile de l'islam et il m'a été donné bien sûr de comprendre mieux l'islam, d'ailleurs de l'étudier pour savoir de quoi il s'agissait. Et dans l'islam, il y a un péché qui s'appelle l'associationnisme, à vos souhaits. Ce péché d'associationnisme, et d'ailleurs vous êtes tous des associationnistes ce soir pour un musulman, parce que pour un musulman, pour un frère musulman, pour un croyant musulman, le fait d'appeler Allah Père, c'est attribuer à Allah une qualité humaine. Et à partir du moment dès que vous attribuez à Allah une qualité humaine, vous associez donc une qualité humaine à Allah, vous le faites descendre de son piédestal en fait, vous lui enlevez sa spiritualité, vous lui enlevez sa hauteur, son élévation, vous le faites descendre finalement de son trône. Et en cela, c'est un péché, c'est une forme d'idolâtrie que juste d'appeler donc Allah Père. Donc c'est ça l'associationnisme. Donc vous comprenez bien le raisonnement, dès que vous appelez Allah Père, vous êtes tous des associationnistes. Sauf que Jésus dit exactement le contraire ici. Jésus dit, c'est pas si vous appelez n'importe qui sur la terre Père, vous faites quelque chose de pas bien. Parce qu'en réalité, vous n'avez qu'un seul Père. Autrement dit, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que le mot Père, et d'ailleurs, vous en avez eu la preuve il y a à peine quelques instants, en lisant Ésaïe 9, verset 6, c'est que le mot Père éternel, c'est le nom de Dieu. Il ne viendrait à l'idée de personne ici-bas, ici ce soir, d'appeler quelqu'un admirable conseiller, et encore, Dieu puissant, et quoi encore ? Père éternel ou encore hein? Donc, en aucun cas, vous permettriez de prendre un des 4 ou 5 noms, ça dépend si on considère que c'est merveilleux et conseiller, ce 2 noms différents, c'est un seul nom. En tout cas, des 4 ou 5 noms qu'Ésaïe donne, il ne viendrait à personne l'idée de prendre ces noms et les attribuer à un être humain. Mais c'est exactement ça que Jésus est en train de dire, en fait. Jésus est en train, d'une manière très juive, très sémitique, de nous rentrer dedans d'une bonne manière pour nous secouer, pour nous réveiller, dire attention, le mot Père, et vous comprenez le salut qu'il y a dedans, c'est n'y attachez pas vos images toxiques, parce qu'en réalité, vous n'avez qu'un seul Père. Le mot de Père, le nom de Père, ce que Jésus est en train de nous dire, en fait, le nom de Père, c'est le nom du Seigneur lui-même. Autrement dit, chaque fois que vous appelez quelqu'un de ce nom sur la terre, vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire. Ou alors vous devriez assumer ce choix en disant que si vous appelez quelqu'un Père sur la terre, vous devez savoir que vous faites un emprunt, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Et Jésus est en train de nous élever, il nous fait sortir notre toxicité là. Il est en train de nous faire sortir de notre héritage européen, nous faire sortir même des expériences de l'enfance, pour nous dire non, tu n'as qu'un seul Père. Ce Père, c'est le Père éternel d'Ésaïe 9.6, c'est celui-là qui porte ce nom. C'est un nom divin. Dites à votre voisin, Père est un nom divin. Et c'est celui qui est au ciel. Ok ? Donc vous voyez, l'islam se trompe en disant que lorsque nous disons Père, nous prenons un nom humain et nous le disons à Dieu. La réponse est non, pas du tout. Nous ne sommes pas associationnistes, nous chrétiens. Et c'est la réponse à faire à l'islam. Quand nous parlons de Dieu comme Père, nous utilisons le nom que Dieu lui-même a donné par le prophète Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe qui nous a donné le nom de Dieu et ce nom c'est Père. Par contre, lorsque vous employez le nom de Père à quelqu'un qui vous a mis au monde, là vous faites de l'associationnisme, puisque vous utilisez le nom précieux, le nom révélé, et vous l'utilisez pour un être humain. Boum. Voilà, en tout cas, s'il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement, voilà en tout cas ce que Jésus fait. Ça ne veut pas dire, au fond, soyons clairs, ça ne veut pas dire que Jésus, au fond, vous interdit d'appeler quelqu'un Père sur la terre. Juste, il veut rendre à César ce qui appartient à César, et rendre au Père ce qui appartient au Père, au Seigneur ce qui appartient au Seigneur. Il veut rendre l'unicité de ce nom et nous détacher de notre toxicité, de nos héritages européens et aussi personnels. Deuxième déclaration. Ça aussi c'est intéressant. C'est pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Vous savez, c'est quelqu'un qui est venu. On a l'impression que Jésus, tu sais, quand il dit ça, il fait le super spirituel, tu sais. Un peu comme quand quelqu'un vient voir des fois dans les églises. « Oh, c'est super ce que tu as fait. » Non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Ça fait super spirituel. Oui, mais comment le Seigneur l'aurait fait sans toi ? Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi ? Le Seigneur a quand même besoin de toi pour faire des choses bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Jésus, là, fait un petit peu la fine bouche. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Personne n'est bon, ce n'est Dieu seul. Bien sûr que Jésus ne fait pas la fine bouche. De toute évidence, il a vu que celui qui venait à sa rencontre le considérait déjà comme un simple humain et que du coup, il attribuait la bonté à l'humanité. Alors, est-ce que l'humanité a de la bonté ? Réponse ? Oui. Mais est-ce que la bonté est bonne ? Vous comprenez le hiatus là ? C'est entre le verbe avoir et le verbe être, tout simplement. Autrement dit, si vous voulez, c'est entre le fait de pouvoir démontrer de la bonté. Oui, l'humanité peut démontrer de la bonté. Maintenant, est-ce que l'humanité est bonne dans l'absolu ? Non. On sait qu'elle est capable aussi de bien d'autres choses qui ne sont pas très belles. Autrement dit, ce que Jésus a voulu répondre ici, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment, véritablement bon, dont la bonté est l'essence. Nous, si vous aimez un peu la philosophie, et on a une prof de philo, elle va nous dire pourquoi, hein. Vous savez la différence entre un essence, l'essence et un accident. L'essence, c'est ce que l'on est, c'est l'ontologie de quelqu'un, c'est ce qu'il est profondément, ce qu'il est au fond de lui-même, ce qu'il est en vérité. Ça, c'est l'essence. Et puis, un accident, c'est quelque chose que quelqu'un peut être, peut faire, en fait, peut faire. Vous voyez, il y a la différence entre l'être et l'avoir aussi. Hein. C'est peut-être plus simple de faire ce distinguo entre l'être et l'avoir. Eh bien, l'humain peut avoir de la bonté, mais seul Dieu est bon. Seul Dieu a pour racine et bon par essence. Nous ne sommes pas bons par essence, nous sommes bons par accident. Entre deux bêtises, nous sommes bons. Et puis, cette dernière affirmation, mais là qui vient de Jean, je voudrais méditer quelques instants avec vous avant d'avancer plus loin. Mais avant, je voudrais vous raconter cette histoire d'un enfant à qui on dit « Quel âge as-tu ? » Et l'enfant répond « J'ai 5 ans. » Très bien. « Quel âge a ton père ? » Et l'enfant de répondre « Il a 5 ans. » Alors l'adulte dit avec un petit sourire gêné, mais c'est pas possible ça. Comment peux-tu dire que tu as 5 ans et ton père a 5 ans ? C'est pas possible. Quel âge il a ton père ? Il a 5 ans. Je te l'ai dit, il a 5 ans. Mais non, écoute, si toi tu as 5 ans, comment veux-tu que ton père ait 5 ans ? C'est pas possible, voyons. Mais si, parce que quand je suis né, mon père est devenu père. Touché, coulé. Toucher, couler, c'est-à-dire que, vous savez, dans une église, quelqu'un m'a dit, oui, mais Dieu est devenu père quand il a eu Jésus. Je dis, oulala, mais attention, là, ça ne va pas, théologiquement parlant. Hein. Non, Jésus, écoutez bien, le Fils a toujours été Fils, il sera toujours le Fils, d'accord ? Ça soit clair. Et le Père a toujours été Père, il n'est pas devenu Père, il est Père depuis toute éternité. Donc comment voulez-vous comparer un Père terrestre avec le Père, celui qui est de toute éternité ? En aucun cas, le Père n'est devenu Père en ayant Jésus-Christ. Jésus-Christ fait partie de la divinité depuis de toute éternité, fait partie de la Trinité depuis tout le temps. Par contre, quand il est dit qu'il est engendré, ben il s'est fait chair. Ah, ça c'est sûr. Le Fils s'est fait chair. Le Père s'est fait chair dans le Fils que nous voyons marcher plein de grâce et de vérité pendant ses 3 ans de ministère et puis aussi grandir comme un enfant parmi les fils des hommes. Ça c'est clair. Mais voyez-vous, encore une fois, le Père n'est jamais devenu Père. Il a toujours été Père. Alors maintenant, regardons cette affirmation parce qu'elle est hyper importante pour nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous imaginez Jean. Jean, on sait aujourd'hui que tous les disciples de Jésus étaient juifs. Donc on sait aujourd'hui que tous les disciples de Jésus étaient forcément des gens versés dans les Écritures. Ils avaient donc appris au pied de rabbins. On verra une image d'ailleurs qui le montre. Hein. Ils avaient donc appris, ils avaient appris par cœur les Écritures, la Torah. Ils connaissaient la Torah parce que c'est le seul moyen de posséder d'ailleurs la Bible. C'était d'apprendre par cœur. Ces gens mémorisaient des passages incroyables des Écritures. Aujourd'hui, à cause de tous les supports que l'on a pour se rappeler, notre mémoire est très faible. Mais imaginez, à l'époque de Jésus, la mémoire était bien plus grande, elle était bien plus exercée. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est une bonne mémoire, allez voir les analphabètes que j'ai rencontrés au Maroc, par exemple. Les femmes analphabètes que j'ai rencontrées au Maroc, elles ont une mémoire incroyable. Vous savez pourquoi ? Parce que la mémoire n'est pas un surplus pour elles, c'est une question de vie et de mort. Parce que quand vous ne savez pas lire, quand vous ne pourrez jamais relire vos notes, je vous garantis que mémoriser une information, c'est très, très, très important. Ce qui fait que vous pouvez raconter un passage entier des Écritures à une femme d'Afrique du Nord, analphabète, et cette femme d'Afrique du Nord va vous raconter par le détail, un quart d'heure après, voire une heure, voire le lendemain, la même histoire, avec foule de détails, tous les détails que vous avez donnés. C'est fascinant de voir ça. Et là, on se rapproche un petit peu, voyez-vous, du style de mémoire qu'on devait avoir à l'époque. Alors, pourquoi j'introduis ce verset comme ça ? Parce que quand un fils d'Israël dit « Personne n'a vu Dieu » à d'autres fils d'Israël, vous avez envie de dire à ce Jean-là, « Écoute, Jean, là, je trouve que tu exagères un petit peu, parce que, excuse-moi, mais Moïse a vu Dieu, Abraham a vu Dieu, Noé a vu Dieu, les prophètes ont vu Dieu, enfin, tous les grands hommes ont vu Dieu de la Bible, tous les grands patriarches ont vu Dieu. Comment tu peux dire une chose pareille ? Enfin, Jean, comment tu peux dire un truc pareil ? Ils ont vu Dieu et ils sont restés en vie. Et c'est pour cette raison que ce sont des patriarches, pour cette raison que ce sont des grands hommes, pour cette raison que nous les respectons au milieu de nous. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Et pourtant, Jean affirme très clairement, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu le Fils, celui qui est dans l'intimité et celui qui l'a fait connaître. Autrement dit, ce que vous devez comprendre, c'est que tous ces patriarches, effectivement, ils ont eu ce qu'on appelle des théophanies, des christophanies, mais ils ont vu Dieu de l'extérieur. Le seul, parce que c'est clair, personne ici en grec, vous savez ce que ça veut dire, personne ici ? Ça veut dire personne. C'est étonnant, hein ? C'est beau le grec, hein. Quand le grec dit personne, ça veut dire personne en fait. Oui. Donc personne n'a jamais vu Dieu, ça veut dire personne. C'est-à-dire, en fond, comment on pourrait le redire ce verset ? Personne n'a vu Dieu comme, ou plutôt, personne n'a vu le Père comme Jésus a vu le Père. Lui, il l'a vu de l'intérieur et il nous le fait connaître de l'intérieur. Autrement dit, voyez-vous, si ce soir nous avions Moïse et Jésus, Moïse ne pourrait pas rendre silencieux Jean, par exemple, ou Jésus, quand il parle du Père. Parce que ce que même, je pense que Moïse dit, écoutez-le lui. Nous les patriarches, et si les patriarches étaient là ce soir, si imaginez qu'ils pouvaient nous être révélés dans un songe, ces patriarches, ils nous diraient, écoutez le Fils. écoutez-le. Parce que nous, vous nous avez écoutés et vous êtes morts dans vos péchés. Ou vous nous avez écoutés et vous n'avez pas tout compris. D'ailleurs, est-ce que les scribes et les pharisiens n'ont pas écouté ces grands patriarches et quand Jésus était là, ils ne l'ont pas vu? Le seul, absolument le seul qui vient de l'intérieur, qui est le Père lui-même, qui vient se montrer à nous comme un fils, eh bien le seul fils et père, tel fils, le seul, eh bien c'est Jésus-Christ. Autrement dit, vous comprenez, on ne peut pas avoir une lecture plate de l'Écriture et mettre les révélations de l'Ancien, l'Ancien Testament à la même niveau que les révélations que Jésus nous donne sur le Père. Il y a forcément il y a un plan d'inclinaison. C'est-à-dire que nous allons vers une plus grande lumière alors que Jésus nous parle. Et dès que Jésus nous parle, bien sûr, Dieu nous a parlé parmi les prophètes, mais dans les derniers temps, dans les derniers jours, Dieu nous a parlé lui-même par Jésus-Christ. Donc personne n'a jamais vu le Père comme Jésus l'a vu, parce que tous les autres l'ont vu de l'extérieur, lui il va nous donner le point de vue de l'intérieur. C'est pour cette raison que c'est tellement important que notre révélation du Père soit basée directement sur ce que Jésus va nous dire du Père. Et non pas de ce que notre histoire nous dit. Et j'aurais envie de dire même pas que notre source ne soit pas seulement Moïse, que notre source ne soit pas seulement Ésaïe. Bien sûr qu'elle vienne nous compléter, mais la source...